France Culture.
Et on reprend la route des midis, bienvenue à toutes et à tous. À 13h comme promis, on discutera avec la danseuse et chorégraphe Maude Le Pladec. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier.
Bonjour à tous. Alors pour sensibiliser les citoyens, associations, institutions et entreprises à l'importance des mers et des océans, l'année 2025 est consacrée à la mer. À cette occasion, des événements sont organisés tout au long de l'année pour faire connaître à tous l'importance des enjeux maritimes et susciter l'envie d'agir pour l'océan. Le musée d'Orsay à Paris propose dans ce cadre deux soirées spéciales, demain et mercredi. Et c'est Camille Etienne qui sera à la manœuvre. L'art et la mer, c'est le dossier du Point Culture du jour. Camille Etienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante écologiste française et vous avez imaginé ces deux nocturnes au musée d'Orsay à l'occasion de l'année de la mer 2025. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi cette année de la mer est importante? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Absolument. Alors, c'est une annonce qui a été faite. Donc il y a toujours la fête des mers, la Saint-Valentin, l'année du trèfle. Il y a toujours des années un peu comme ça, des jours qui, pour moi, n'ont jamais une valeur en réalité particulière. Donc malheureusement, on peut pas en attendre grand-chose de plus qu'une autre année. Mais la seule chose qui va être importante, c'est peut-être que les yeux du monde, en tout cas les caméras, les yeux médiatiques du monde et les chefs d'État seront présents en France pour s'occuper de cette question de la mer. Il y a une grande messe qui va s'appeler l'UNOC, la Conférence des Nations Unies sur la mer, qui va avoir lieu en juin. Et donc voilà, c'est un moment un peu, on pourrait dire, particulier, où on aura une attention particulière à ce sujet immense qui est souvent un grand oublié, finalement, je trouve, des luttes climatiques.
Oui, et on oublie parce que la France a quand même, un patrimoine maritime immense.
La France est, honnêtement, d'un point de vue diplomatique, un des plus forts, si ce n'est le plus fort pays en ce qui concerne l'océan. On est le deuxième espace maritime mondial juste après les États-Unis et de peu. Et par ailleurs, on est les seuls à faire partie de la Convention de la mer. Les États-Unis ne font pas partie de la Convention de la mer. Donc ça veut dire que quand il y a des négociations internationales sur la mer, vraiment la France est le plus important et le numéro un. Donc ce que fait la France dans ses politiques sur l'océan, c'est regarder vraiment pour le coup du monde entier.
Alors en quoi l'art, puisque tous ces événements-là vont se passer au musée d'Orsay, en quoi l'art, selon vous, est un bon médium pour parler d'écologie?
Eh bien, c'est une question assez perturbante parce que j'ai pas envie de répondre non plus en disant que l'art va tout changer, qu'il suffit de faire quelques pas d'eux pour que les courbes s'inversent, ou bien que quelques phrases de théâtre, aussi jolies soient-elles, on va faire descendre les degrés dans l'atmosphère. J'en suis bien consciente que l'art ne peut pas tout, mais il y a cette phrase de Malraux qui disait que l'art est un anti-destin, et je suis partie de là, et c'est pour ça que j'ai accepté ces deux soirs avec Orsay, en me disant, mais en fait, c'est peut-être ça, c'est des moments où on va retrouver cette envie irrémédiable d'étonner la catastrophe. Donc pour moi, c'est un élan. C'est peut-être que ça, mais c'est un élan qui nous manque terriblement en ce moment. Donc trouver un endroit pour se rassembler, pour ralentir, pour se taire, pour être face à aussi l'histoire. Je trouve que, surtout au musée d'Orsay, il y a ces tableaux qui datent depuis bien avant moi. Les textes qu'on va lire sont aussi des textes qui sont bien plus anciens, des écologistes bien plus anciens. Et donc, ça montre quelque part qu'on fait partie d'une histoire plus grande que soi. Et je trouve que dans ces moments où tout est toujours urgent et ça peut paralyser parfois, c'était une ode au ralentissement un peu nécessaire.
Alors quand on associe activisme climatique et musée, on pense vite aux interventions qu'il y a eu contre les tableaux de maîtres. Je pense à ces jeunes gens qui ont pu jeter de la soupe ou d'autres Merci. Choses sur ces tableaux-là. Est-ce que pour vous, c'était une autre façon d'intervenir dans les musées, ce que vous allez faire là à Orsay?
Oui, c'est une autre façon. Alors, c'est vrai que, en fait, quelque part, certains ont défendu l'idée que ces jets de soupe et tout ça, c'était des performances artistiques et que Van Gogh aurait adoré voir ce tournesol comme ça, d'un coup, se retrouver au milieu
de la tourmente. Oui, on parlait même de happening, parfois, qui est un terme artistique.
Oui, on rappelle quand même que, ça répète la même chose, en tout cas, les tableaux n'ont jamais été endommagés, il y avait des vitres qui les protégeaient. Mais même pour le coup, on regarde les luttes des suffragettes, il y a des tableaux qui ont été lacérés, pour le coup, vraiment. Donc, le lien entre performance artistique dans les musées et lutte concrète, parfois même radicale, ça existe depuis bien longtemps dans les luttes sociales. Là, c'est quelque chose de complètement différent. Le musée d'Orsay est a priori d'accord que je sois là demain soir. Et non, et l'idée vraiment, c'était pour moi d'inviter des gens qu'on attend moins et faire quelque chose de pas littéral, plutôt de suggérer et de lire des textes. Qui, moi, je vais lire un texte de Camus aussi. On a des textes d'Anita Conti avec Blandine Riquel, qui sont lus par Blandine Riquel, qui est une autrice que j'adore. Elle a même retrouvé des bouts de poèmes qui n'ont pas encore été lus, donc ce sera un peu inédit. Donc voilà, le but, c'est quand même de montrer que on peut toucher par le sensible et que de cette sensibilité nouvelle, peut-être à l'océan, à la mer, eh bien, ce sera peut-être pas suffisant, mais en tout cas nécessaire pour créer un élan.
Là, vous avez parlé d'autrices, mais est-ce qu'il y aura d'autres arts représentés ?
Bien sûr, alors on a du théâtre aussi, on a Léa Lopez, une comédienne de la Comédie Française, qui fera une pièce qui s'appelle Le Naufrage, parce que je voulais parler de la mer, mais aussi de la mer comme un cimetière, la mer comme un lieu d'exil, comme un moyen, quelque part, d'exil. On aura aussi de la danse avec Léonore Bollac de l'Opéra de Paris, qui vont danser sur Caroline Carson, la pièce bleue. Donc, un peu tous les médiums, disons. On a du théâtre, de la danse, des textes et du chant aussi. On a Barbara Pravi et Camélia Jordana qui chanteront, elles aussi, des compositions en lien.
Vous êtes, on l'a dit, une activiste pour le climat. Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la culture prend sa part dans ce grand combat écologique à mener ?
Pour être honnête, peut-être pas à la hauteur dans laquelle j'aurais aimé le voir. J'ai l'impression que c'est malheureusement parfois toujours... Peut-être que pour moi, l'art a toujours été un peu en avance. Enfin, en tout cas, j'ai attendu qu'il soit en avance parce que c'est un des rares endroits où choquer est permis. Et choquer est permis dans des cercles de pouvoir voir et encourager. On aime être provoqué quand on va voir ces tableaux, quand on va voir des expositions, quand on va voir des films. On a une attente, on est prédisposé à une empathie particulière. Et quelque part, sur cette question climatique, je trouve qu'on est encore très timide. Je pense à des discussions avec des scénaristes et réalisateurs qui disent « Oui, mais ça, les gens s'en fichent, enfin, c'est trop tôt, c'est pas, ça prendra pas, ça ennuiera. » Et on voit que les quelques tentatives qui ont été faites ont été des immenses succès. On voit le film « Look Down » qui avait été un phénomène. Et après, derrière, ça avait été repris. D'ailleurs, on avait fait des marches qui s'appelaient « Don't Look Up », pardon. Bah, justement, on a créé un mouvement qui s'appelait « Look Down » qui est descendu de cette fiction. Moi, il y a des fictions qui ont changé ma vie. Ma lutte sur les polluants éternels, c'est parti d'un film. C'est parti du film de Dark Waters avec Mark Ruffalo, qui m'a, en une heure et demie, bouleversée au point de dire « Mais c'est pas possible, c'est une histoire vraie. Regardez, est-ce que ça existe en France ? Est-ce qu'il y a une loi qui est prévue ?» Et j'y ai ensuite dédié 2 ans de ma vie.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ces grandes journées qui, comme vous l'avez dit, hein, parfois sont des journées qui ressemblent plus à un appel, en tout cas en termes de communication, la journée oui. de la mer, en fait, ça peut quand même servir à ça, c'est-à-dire d'un coup à donner une envie à un champ artistique de proposer quelque chose.
C'est peut-être une excuse. Si c'est une excuse, il faut qu'elle soit bonne.
Merci beaucoup, Camille Etienne.
Merci à vous. Bonne journée.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, une figure majeure de la danse en France, Jean-Paul Montanari, est mort vendredi.
Oui, il a été le directeur du Festival Montpellier Danse pendant 42 ans et venait de prendre sa retraite. Il a été défenseur d'une danse contemporaine savante et laisse un héritage chorégraphique considérable. Il avait programmé la 45e édition du Festival Montpellier Danse qui se tiendra du 21 juin au 5 juillet prochain.
Les films français continuent de plaire en Russie.
Plus de 7 millions de Russes ont vu des productions hexagonales en 2023. L'an dernier, 60 films français ont été distribués en Russie, deuxième pays où la France exporte ses films après l'Allemagne. Miraculous, Le Comte de Monte Cristo ou encore Jeanne Dubarry font salle pleine en Russie. En effet, les biens culturels ne font pas partie des sanctions européennes appliquées après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Plusieurs sociétés françaises du cinéma maintiennent donc leur lien avec les distributeurs russes qui paient le prix fort pour importer le cinéma français, contrairement à d'autres pays européens.
Depuis les Folies Bergères à Paris et diffusée en léger différé sur France 2, la cérémonie des Molières a lieu ce soir.
Mais oui, la 36e nuit des Molières va départager les meilleurs spectacles et interprètes de l'année au théâtre. C'est la pièce de Paul Claudel, Le Soulier de Satin, mise en scène par Éric Ruff qui domine les nominations en figurant dans 6 catégories. Du charbon dans les veines 2 est mise en scène par Jean-Philippe Daguerre qui compte l'histoire des gueules noires dans les territoires miniers du Pas-de-Calais et nommé elle 5 fois. Pour le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public sont en concurrence Dominique Blanc, Marina Hans, Isabelle Huppert, Dominique Raymond et Georgia Scalette. Philippe Torreton, Xavier Gallet, Vincent Garanger et Denis Lavant sont eux en lice pour le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public. La CGT Spectacle qui dénonce les coupes budgétaires drastiques dans le secteur de la culture a appelé à une mobilisation ce soir aux abords du théâtre pour interpeller la ministre Rachida Dati.
Et pour finir, Marie, le live à Pompéi des Pink Floyd a été dépoussiéré.
Oui, dans l'amphithéâtre de la Cité romaine, filmé en 1971, les quatre membres du groupe mythique figeaient leur image dans l'histoire de la musique en jouant plusieurs morceaux. Dans une nouvelle version remasterisée numériquement à partir du négatif original, les images gagnent en relief. Elles sont assorties d'images documentaires qui nous replongent dans les élans créatifs du groupe. Le son retravaillé gagne, quant à lui, en pureté et en profondeur. Les fans de Pink Floyd pourront se procurer DVD ou CD ou le voir en salle à Paris, mais c'est jusqu'à demain.
Merci Marie, et d'ailleurs demain, nous on se retrouve.
Bah oui, on se retrouve avec plaisir.
D'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.